Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous entendons la lecture de Marc 3, 7 à 35.
Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, venue de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et des environs de Tyre et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il le recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12. Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Puis ils revinrent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu le sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Belzébul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, ce n'est fini de lui. » Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'était parce qu'il disait « Un esprit impur est en lui ». Survint sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. »
Alors dans ce contexte estival, je pense que l'on comprend que utiliser un barbecue à gaz sans gaz, ben c'est un peu difficile. Et bien c'est comme vouloir comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. C'est conduit par l'Esprit que nous voulons nous nourrir ce matin de cette parole et nous comptons sur lui. Comme chaque dernier dimanche du mois, nous ouvrons le journal de Pierre, écrit par Marc le journaliste. Alors Pierre a vécu les événements des 5 courts articles que nous avons aujourd'hui devant les yeux dans Marc 3, les versets donc 7 à 35. Alors je vais simplement vous faire un petit peu un aperçu de ce qui se passe. Donc Jésus opère des guérisons, le fait qu'il le fasse aussi le sabbat irrite les chefs du peuple qui cherchent un moyen pour le faire mourir. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois, où nous avons parlé de Jésus qui rejette le formalisme. Après cet événement, Jésus va au bord de la mer de Galilée avec ses disciples. Mais il ne va pas se retrouver seul. Des personnes de toutes les régions d'Israël viennent, soit du nord, du sud ou de l'ouest, sont là pour venir l'écouter et voir ce qu'il fait. Jésus accomplit beaucoup de guérisons. Ce n'était pas rare. Les guérisons étaient totales, complètes, instantanées, sans aucun effet secondaire néfaste. Il commande aux esprits impurs avec autorité. Chacun peut reconnaître la puissance de Jésus que personne jusque-là n'a eu et que personne après lui n'a jamais eu. Personne avant lui n'a eu ce pouvoir et personne après lui ne l'a jamais eu non plus. Pourquoi ? Parce que Jésus est Dieu et personne d'autre. Ensuite, Marc, le journaliste de Pierre, nous indique que Jésus est allé sur une montagne et a appelé des personnes particulières. Et Pierre s'en souvient parce qu'il a été appelé et même que Jésus lui a changé son nom parce qu'il s'appelait Simon, en fait. Et là, il l'appelle Pierre. Après ce temps plus calme dans la montagne, Jésus retourne à la maison. Sûrement celle de Pierre, d'ailleurs, où il a vu sa belle-mère guérie. Sûrement également où le paralytique, après avoir été descendu du toit, avait eu ses péchés pardonnés et il avait été remis sur pied. Et là, dans cette maison, c'est l'assaut de la foule à qui Jésus répond aux besoins de guérison physique et spirituelle. La demande est d'une telle intensité que Jésus et ses disciples n'arrivent même plus à manger. Et la famille de Jésus entend cela, ils habitent un peu plus loin, ils entendent cela et ils concluent que le frangin, le neveu, le cousin a perdu la raison. Alors ils décident d'aller le rechercher, de se saisir de lui. Dans ce même temps, les scribes venus de la capitale voient bien que tout ce que Jésus fait est extraordinaire. En fait, qu'un homme ne peut pas faire ce qu'il fait et qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui a perdu la raison. Ils cherchent un moyen à expliquer cela et ils disent à tous ceux qui les entourent que Jésus est possédé de Belzébul, qui est un autre nom pour Satan. Jésus sait qu'il proclame cela. Et il leur répond par une question, une affirmation logique et l'application de cette affirmation à Satan. Et il illustre son propos par une image et il termine par un enseignement sur le pardon des péchés et la culpabilité des scribes. Le dernier court article revient à la famille, maintenant arrivée où Jésus se trouve, et ils lui font dire à Jésus de venir, et Jésus répond par une invitation. Voilà le décor du texte que nous allons ensemble creuser ce matin. Nous lisons la parole de Dieu avec généralement des questions. Je vous encourage à avoir des questions lorsque vous lisez la Bible. Et par plusieurs grilles de questions, on peut se dire, par exemple, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, sur l'homme, sur la grâce, sur la justice, sur l'amour, sur le péché, sur la progression de la révélation, etc. Et aujourd'hui, je vous propose trois questions que nous allons nous poser tout en suivant ce texte. Vous pouvez garder les trois mots qui le résument. Premier, c'est quelles sont les actions de Jésus ? Donc, actions, quelles sont les actions de Jésus ? Quelles sont les réactions des personnes et quelles sont les réponses de Jésus à ces différentes personnes. Action, réaction, réponse. Alors je vous préviens tout de suite que nous allons nous appuyer sur un présupposé, quelque chose que nous croyons et qu'en raison du temps, je ne vais pas pouvoir faire le tour ce matin pour vous en convaincre, mais j'aimerais vous le dire, comme ça c'est clair, nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons que Jésus est Dieu, ce qui signifie que toutes ses actions, comme toutes ces réponses, sont justes, bonnes, vraies, saintes et amour, selon la volonté de Dieu. Ça, c'est un présupposé que nous prenons avec vous, avec nous ce matin. Nous croyons que Jésus est Dieu, ce qui signifie que toutes ces actions, comme toutes ces réponses, sont justes, bonnes, vraies, saintes et amour, selon la volonté de Dieu. Et c'est à la réaction des différentes personnes que nous pouvons nous identifier. Nous n'allons pas nous identifier à Jésus dans ce texte. Parce que Jésus, il est toujours notre maître et notre enseignant. Et si nous sommes appelés à témoigner de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait, nous ne serons jamais appelés à le remplacer. Je vous invite à avoir vos Bibles ouvertes, donc dans l'Évangile selon Marc, ou derrière donc votre petit document. Vous voyez ces cinq articles que nous allons suivre maintenant et qui vont nous donner les cinq points donc, de cette prédication. Premièrement, les multitudes viennent à Jésus. Deuxièmement, Jésus choisit 12 disciples. Troisièmement, la parenté de Jésus s'inquiète. Quatrièmement, les scribes accusent Jésus d'être démoniaque. Et cinquièmement, qui est la famille de Jésus? Donc, entrons dans ce premier article, les multitudes viennent à Jésus, les versets 7 à 12. Donc, rappelez action, réaction, réponse. Voilà, chaque fois, on peut avoir ces notions dans notre tête. Donc, quelles sont les actions de Jésus, ses réactions et les réponses de Jésus à ces personnes? Nous relisons le texte pour l'avoir bien en tête. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, venue de la Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il le recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Voilà ce premier petit article que Pierre a vécu. Alors, quelles sont les actions de Jésus? Eh bien, il se retire vers la mer et guérit beaucoup de gens. Il guérit beaucoup de gens. Et j'aimerais ici nous aider à comprendre que Jésus, dans son ministère, a guéri des centaines, voire même des milliers de personnes. Marc parle à plusieurs reprises de beaucoup de guérisons. Rappelons-nous que les guérisons de Jésus, que Jésus faisait, étaient complètes. Elles étaient instantanées, à sa demande, sans effet secondaire nocif, de toutes sortes de maladies jusqu'à la résurrection des morts. C'est l'action de Dieu sur terre. Personne d'autre que celui qui donne la vie et règne sur la création n'a le pouvoir qu'il a démontré. Personne. Jamais une telle quantité de miracles extraordinaires ne s'était produite sur terre et plus jamais cela n'est arrivé. Car Jésus est le seul qui est Dieu lui-même. Donc jamais une telle quantité de miracles extraordinaires ne s'était produite sur terre et plus jamais depuis cela n'est arrivé. Car Jésus est le seul qui est Dieu lui-même. On verra que c'est important de comprendre cette notion pour la suite. Quelles sont les réactions des personnes? Eh bien, des gens viennent de toutes les parties d'Israël. Il y a des Juifs de la Galilée, c'est là où est Jésus, c'est cette région. Hein. La Judée, c'est le pays de la tribu qui est revenue de l'exil, avec Jérusalem, sa capitale, où toutes les nouvelles passent. L'Idumée, c'est moins connu, je pense. J'ai dû chercher moi-même aussi. C'est où l'Idumée? Exact. L'Idumée, c'est Édom en grec. Édom en grec, c'est Idumée, c'est au sud de Juda. Et en fait, entre Malachie et Matthieu, enfin, l'avenue de Jésus-Christ, il y a 400 ans où souvent on dit « il n'y a rien qui s'est passé », non, il n'y a pas rien qui s'est passé, plein de choses se sont passées. Et là, du temps des Maccabées, l'Idumée a été annexée à Israël. Donc c'est devenu quelque part, ça faisait partie d'Israël. Ensuite, il y a la Transjordanie, de l'autre côté du Jourdain, du côté ouest. On parle de Tyr et de Sidon, qui indiquent une provenance de la foule depuis le nord au-delà d'Israël. Donc, c'est un peu comme si je disais que des personnes viennent de Scandinavie, des pays latins, germaniques, anglo-saxons et austro-hongrois pour parler de toute l'Europe. En fait, des gens venaient de tout Israël et même au-delà, voir ce qui se passait, puisqu'ils avaient entendu que Jésus guérissait, et se faire guérir. Les malades se jettent sur lui pour le toucher afin d'être guéris. Il est Dieu, et ils sont guéris. Les esprits impurs se prosternent, ils disent « Tu es le Fils de Dieu ». Et j'aimerais bien qu'on comprenne ici, ils ne le font pas par moquerie. Parce que les démons devant Jésus-Christ tremblent et lui obéissent d'une manière totale et irrésistible. On voit ça dans tout l'Évangile. Ils ne peuvent pas faire autrement que ce que Jésus leur dit de faire. Parce qu'il est Dieu. Quelle est la réponse de Jésus? Eh bien, il demande à ses disciples, par exemple, d'avoir une barque à disposition pour enseigner la foule malgré son empressement. Comme ça, il pouvait un petit peu se retirer. En plus, vous connaissez le lac, quand il y a de l'eau, la voix, elle porte. Donc plus de monde entend, enfin voilà, toutes sortes de choses là derrière, qui indique que son enseignement indique son soin pastoral. Il veut prendre soin de ces personnes. Pas juste se faire accaparer par ceux qui lui sautent dessus. Il veut prendre soin. Deuxièmement, il guérit beaucoup de malades. Sa réponse indique sa puissance surnaturelle. Et il prend autorité sur les esprits mauvais en le recommandant avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. En fait, ça, et il se taise d'ailleurs hein, à ce moment-là. Et sa réponse indique son autorité surnaturelle. Ce premier article nous laisse avec une première question. Est-ce que ce que j'entends de Jésus me pousse à aller vers lui, comme toutes ces personnes qui font là? Est-ce que ce que j'entends de Jésus me pousse à aller vers lui? Et si oui, quelle est ma motivation? Est-ce que je reconnais ses soins, sa puissance et son autorité? Est-ce que je reconnais ses soins, sa puissance et son autorité? Nous allons continuer parce qu'il y a d'autres articles qui vont nous donner quelques éléments ici que Pierre a vécu. Hein, vous rappelez les trois questions qu'on garde? Quelles sont les actions de Jésus, les réactions des personnes et les réponses de Jésus? Hein, et on passe dans le deuxième article qui est Et donc Jésus choisit 12 disciples. Relisons les versets 13 à 19. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12. Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergèse, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Canaanite, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Action. Quelles sont les actions de Jésus? Jésus fait deux choses au départ. Il monte sur la montagne. Et Luc 6, qui nous parle aussi de ce qui s'est passé là, nous dit qu'il a passé toute la nuit en prière. Donc monter sur la montagne, ce n'est pas juste aller faire une petite balade pour aller faire une pointe puis redescendre. Donc c'est se retirer pour prendre du temps avec Dieu. Il passe toute la nuit en prière. C'est vrai que Jésus est Dieu, il est rempli de l'Esprit Saint et il est en constante communion avec le Père. Et cela le manifeste clairement ici. Donc c'est la première chose qu'il fait, il monte sur la montagne. Ensuite, il appelle ceux qu'il veut. C'est la deuxième chose qu'il fait. Il appelle ceux qu'il veut. Vous savez, il existe un appel au salut et un appel au service. Et ici, il s'agit de l'appel au service, qui sera détaillé dans la réponse de Jésus tout à l'heure. Donc Jésus appelle ceux qu'il veut. Alors quelles sont les réactions des personnes? C'est très court dans le texte. Ceux qu'il a appelés vinrent à lui. C'est tout simple, mais tellement profond. Ils vinrent à lui. Ils vinrent à lui. C'est la réponse à l'appel au service. La réponse à l'appel au service de Jésus, c'est d'aller à lui. Aller à lui. Pas courir dans tous les sens, faire plein de choses. Aller à lui. Juste une petite information en aparté par rapport au nom des disciples. Vous qui connaissez par cœur les 12, vous dites oh, « mais c'est bizarre, il y a des noms, c'est pas les mêmes que ceux que je connais. » Parce qu'il y a 4 listes dans le Nouveau Testament des 12 disciples. Je vous donne juste un peu les liens entre les noms, comme ça vous pouvez faire les liens. Donc Barthélemy, si jamais, c'est Nathanaël, c'est la même personne. Matthieu, c'est Lévi, c'est aussi la même personne. Thaddée, c'est Jude, fils de Jacques. Thaddée et Jude, c'est la même personne, si jamais. Et Simon, Cananite, c'est la même personne que lorsqu'on parle de Simon le Zélote. Voilà, comme ça vous avez les correspondances. Et quelle est la réponse de Jésus à cette approche de ceux qu'il a appelés? Donc quand ils viennent, eh bien, il les établit. Il en établit nommément 12 pour deux choses. Quelles sont les deux choses pour lesquelles Jésus les établit, ici selon Marc? Eh bien, la première, c'est pour les avoir avec lui. C'est pour les avoir avec lui. Et deuxièmement, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors, les avoir avec lui signifie qu'ils sont proches de Christ, séparés du monde. C'est le seul moyen d'apprendre à servir Christ et à lui être fidèle. C'est d'être proche de lui. Celui qui dit « je veux servir Christ, j'ai un appel pour son service » et qui ne veut pas être proche de Christ, il n'est pas en train de répondre à un appel de service pour Christ. C'est vraiment important cette notion de la proximité. Et deuxièmement, la prédication est la proclamation des vérités de Christ en résistant au diable et en dénonçant ses ruses, ce que nous pouvons encore toujours vivre aujourd'hui pour ceux qui sont appelés à le faire. Les apôtres, en outre, ont une prolongation de la puissance de Jésus qui leur a donné l'autorité de chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont reçu cette autorité pour authentifier les écrits du Nouveau Testament que nous avons maintenant. Et plus personne maintenant n'est appelé à écrire la suite du Nouveau Testament. Alors comme je vous l'ai dit, on va toucher à quelques sujets de réflexion qui peuvent aller bien plus profondément. Mais pour approfondir, il est bon d'avoir une vue d'ensemble. C'est pourquoi je vous propose de continuer avec l'article suivant. La parenté de Jésus s'inquiète. Là c'est juste 2 versets, mais on va quand même réfléchir quelques instants. La parenté de Jésus s'inquiète, les versets 20-21, que nous retrouverons plus tard au verset 31. Alors je le redis. Puis ils revinrent, donc Jésus et ses disciples, après être sur la montagne, ils revinrent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « il a perdu le sens ». Ce qu'on dirait peut-être plus communément aujourd'hui, « il est fou ». Alors quelles sont les actions de Jésus? Bon, c'est très simple ici, il revient à la maison, la foule s'assemble de manière si pressante que lui et ses disciples ne peuvent prendre le repas. Le besoin de guérison et la curiosité est si forte que tout le temps de Jésus et ses disciples est accaparé. Quelles sont les réactions des personnes? C'est maintenant ici la famille qui apprend ce qui se passe. Ses frères ne croient pas en lui à ce moment-là. Ils croiront en lui après la résurrection. Marie, elle, a chanté un cantique explicite qui indique qu'avant la naissance de Jésus, elle avait compris qui il était. D'ailleurs, elle savait pertinemment qu'elle avait été enceinte sans avoir été avec un homme. Donc si elle n'a sûrement pas les mêmes sentiments que les autres, ben elle est avec la famille. Les sœurs, les cousins, les oncles, les tantes et toute la tribu est en émoi. Le premier-né de Marie est en train de perdre la tête. Il faut aller le chercher, même de force s'il faut, pour le ramener à la maison. Vous vous rendez compte, il peut même plus manger. C'est comme si dans le Haut-Neuchâtel, on apprenait que ça se passait dans le Bas-Neuchâtel, ce genre de choses. Il faut aller le chercher pour le ramener dans le haut, qu'il prenne un peu l'air. Il n'y a pas ici de réponse de Jésus dans cet article. Parce que c'est le dernier article qui va nous en parler, puisqu'il y a une suite dans l'article « Qui est la famille de Jésus ?» Et ce sera une suite de ce qui s'est passé. Mais la question que nous pouvons nous poser ici, quand même, c'est qu'est-ce que nous pensons de Jésus ? Alors là, c'est vrai que ce que je vais vous dire maintenant, on peut en faire toute une prédication. Mais je vais le dire en une phrase, donc voilà, ça vous fera réfléchir, et je vous encourage à le faire. Jésus est-il Dieu, un menteur ou un fou ? Qui a perdu la raison. Jésus est-il Dieu, un menteur ou un fou ? Qui a perdu la raison. Car il n'y a que ces trois réponses possibles, étant donné qu'il a lui-même affirmé être Dieu. Donc ce n'est pas de moi, cette question. Si je dois le redonner la paternité, si je ne me trompe pas, ça doit être à C.S. Lewis. Donc est-il Dieu, un menteur ou un fou ? Laissons maintenant la famille se déplacer à Nazareth, nous allons les retrouver tout à l'heure, et revenons maintenant à cette maison où est Jésus. Rappelons-nous les trois questions, les actions de Jésus, les réactions des personnes, et comment Jésus va répondre. Donc le titre de l'article, je l'ai intitulé « Les scribes accusent Jésus d'être démoniaque ». On va relire le texte. Donc juste avant, la famille dit qu'il a perdu le sens, puis on continue. « Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, Belzébul est en lui. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'était parce qu'il disait, un esprit impur est en lui. Reprenons nos trois questions. Quelles sont les actions de Jésus ? En fait, il n'y a pas d'action que Jésus fait à ce moment-là, mais il est question de ces actions qu'il a faites. Il chasse des démons. Voilà l'action de Jésus. Et quelles sont les réactions des personnes ? Eh bien, les scribes, qui ne peuvent nier la puissance de Jésus, constatent qu'il a des pouvoirs qui dépassent ce qui est habituel. Il n'y a aucun autre homme qui a fait ça. Donc d'où vient ce pouvoir ? Les scribes peuvent voir qu'il guérit des malades, qu'il parle avec autorité, qu'il chasse des démons. Ils le voient, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'il vient de Dieu, même si c'est évident. Les scribes peuvent voir qu'il guérit des malades, qu'il parle avec autorité et qu'il chasse des démons, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'il vient de Dieu, même si c'est évident. D'ailleurs, il y a une histoire un peu plus tard qui nous permet de comprendre cela. Dans Jean 9, un jour, un homme aveugle de naissance a été guéri par Jésus et il a répondu ceci au responsable du peuple. Jean 9, 30. Cet homme leur répondit, « Voilà ce qui est étonnant, ce que vous ne sachiez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. » Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est important pour comprendre la réponse de Jésus, ce n'est pas que les scribes ou les chefs religieux ne peuvent pas savoir d'où il est, car Jésus l'a proclamé à de nombreuses reprises. c'est que même devant la puissance évidente des œuvres divines de Jésus-Christ, ils ne veulent pas reconnaître son autorité, car ils veulent garder la leur. Alors, ne trouvant pas d'explication possible en dehors d'une puissance spirituelle, même si ce qu'ils voient est totalement pur, invitant à adorer Dieu seul et pour le bien, ils choisissent de l'accuser d'être le mal incarné, en utilisant d'ailleurs un sobriquet, Belzébul, qui veut dire seigneur des mouches ou du fumier, qui était utilisé pour parler de Satan. Ils choisissent de dire que c'est le prince des démons qui est en lui. Donc, il faut comprendre le contexte. Et quelle est la réponse de Jésus? Alors, il faut aussi déjà savoir que les scribes ne disent pas ça à Jésus en face. Ils ont sûrement peur. Et c'est par derrière que l'on dit le mal, généralement. C'est rarement qu'une calomnie est dite en présence d'une personne concernée. Petite parenthèse qui peut nous aider dans notre cheminement de vie aussi. Ça signifie que pour nous protéger de ce problème, nos paroles concernant une personne devraient toujours pouvoir être dites en face. Et si vous ne pouvez pas dire à une personne quelque chose en face, eh bien ne le dites pas quand elle n'est pas là. Ferme la parenthèse. Alors Jésus les appelle, et il savait ce que les scribes disaient. Il répond à leur affirmation insensée et blasphématoire. Elle est insensée, parce que ça va contre toute raison. Tout ce qu'ils voient démontre que ça vient de Dieu. Vous voyez où il n'y a pas de sens, il y a beaucoup de jeux de mots dans toutes ces histoires ici. Hein. Et voici donc 5 étapes que Jésus utilise. Premièrement, la première question. Est-ce que Satan peut chasser Satan? Est-ce que vous arrivez à vous chasser? Est-ce qu'on arrive à se chasser? Eh bien, si on arrive à se chasser, eh bien, on n'est plus là après. On ne peut pas se chasser et être encore là. Ce n'est pas possible. C'est un non-sens. Comprenez un petit peu la notion qui est derrière? Si Satan se chasse, alors il n'est plus là. Mais Jésus, il est encore là, puis ils disent que c'est Satan. Enfin bon, comprenez bien. Hein? Qui a perdu le sens ici? Jésus affirme qu'un royaume divisé contre lui-même ou une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. En fait, ses auditeurs avaient beaucoup d'exemples de royaumes historiques qui n'avaient pas subsisté pour cette raison même. Afin que ses auditeurs comprennent, il les prend par la main même. Et il applique ça à Satan. Il dit, si Satan se soulève contre lui-même, il ne peut subsister, c'est fini de lui. Et Satan est là depuis la chute jusqu'au moment où Jésus leur parle. Ensuite, Jésus illustre son action. Jésus est entré dans la maison de Satan qui est prince de ce monde. Hein, souvent, il est appelé prince de ce monde. Alors, il faut savoir que c'est par usurpation et par autorité reçue par le péché. Hein, c'est l'homme, quand il pêche, qui donne autorité à Satan. C'est pas que Satan a automatiquement autorité sur l'homme. Mais quand on pêche, on lui donne autorité. Et lui, par usurpation, dit « c'est moi le maître du monde ». C'est pas vrai, c'est Dieu le maître du monde. Mais par notre péché, ben, on le rend maître de nous. Et donc, voilà. Et donc, Jésus est entré dans la maison de Satan, qui est prince de ce monde, par usurpation et par autorité reçue par le péché des hommes, et il pille sa maison en chassant les démons. Cela, il ne pourrait pas le faire s'il n'avait pas la puissance de lier le prince. Et si c'était lui-même le prince et qu'il était lié, ben, il n'y a rien qui pourrait être fait. Vous comprenez? Il amène des éléments qui sont faciles à comprendre au niveau logique. Tout cela, les scribes peuvent le comprendre, et je suis certain même qu'ils le comprennent. C'est pourquoi Jésus arrive à la 5e étape en 2 parties. Donc la première partie est un puissant encouragement et un appel. Et la deuxième partie, un terrible jugement. Première partie, Jésus dit « en vérité ». Quand Jésus dit « en vérité », c'est que, il dit « vous êtes là ? Écoutez ». C'est ce que Jésus dit. Hein? « Je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils ont proférés. » Ah, je vais vous le redire. « Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils ont proférés. » Mais c'est hyper encourageant. Tous les péchés. Si quelqu'un ici se demande si Dieu peut lui pardonner, si même il ou elle a du mal à se pardonner personnellement, Dieu peut pardonner tous les péchés. Ça se grave dans notre tête. Jésus le dit en vérité. Écoutez, c'est très important. C'est un appel à se tourner vers Dieu avec une pleine assurance du pardon des péchés commis. C'est juste extraordinaire ce que Jésus dit ici. Et il faut le prendre. On est tellement des fois bloqué par ce qu'il dit juste après qu'on n'a même pas compris qu'il venait de dire ça juste avant. C'est vraiment important. La deuxième partie, c'est vrai, est un jugement terrible. Il dit « Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Et Marc ajoute ici, c'était parce qu'il disait « un esprit impur est en lui ». En fait, les scribes sont devant une évidence exceptionnelle d'une œuvre divine. Personne parmi vous avait été devant cette situation exceptionnelle. Personne. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui guérit des malades comme Jésus l'a fait. Il était Dieu sur terre, les amis. et ils ne peuvent que témoigner du bien que Jésus accomplit. Ils ne peuvent trouver en lui aucun mal du tout. Ils n'en ont trouvé aucun. Quand ils cherchaient des témoignages contre lui, ils n'en ont pas trouvé un seul. Le fruit de l'arbre est totalement bon. Il manifeste la présence du Saint-Esprit dont ils ont pu entendre le témoignage d'ailleurs de Jean-Baptiste. Quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sous une forme de colombe et même le Père a dit « Voici mon fils bien-aimé ». Peut-être même que plusieurs étaient là. Malgré tant d'évidence et devant tant d'évidence, ils disent que Satan est en lui. C'est cela le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Satan est en lui devant tant d'évidence, sans aucune possibilité de douter. Ils disent que Satan est en lui, et c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. L'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, rempli de l'Esprit de Dieu, est le seul qui, par son action, peut pardonner tous les péchés. Le considérer comme rempli de Satan, c'est se couper de la seule source de purification possible. Comprenez l'idée ? Le considérer comme étant Satan, c'est se couper de la seule source de purification possible, parce que Satan n'a jamais purifié personne. Voilà pourquoi ce péché est si grave et a des conséquences éternelles. Et j'aimerais que vous compreniez bien le contexte encore. Les scribes, ils ne pensaient pas pécher contre Dieu. Ils n'étaient pas en train de dire, oh, est-ce que je suis en train de pécher contre Dieu ? Est-ce que j'ai péché contre le Saint-Esprit ? Mais pas du tout ! Nous, on est juste. Là, il y en a un qui nous dérange, qui fait des choses fantastiques, mais nous, on veut garder le pouvoir et on veut l'éliminer. C'est exactement ce qui se passe. Et donc ce jugement que Jésus a prononcé ne les a même pas traumatisés. Cela les a tellement laissés indifférents qu'ils n'ont que cherché à l'éliminer. C'est un trait caractéristique de celui qui a péché contre le Saint-Esprit. Un endurcissement, aucun intérêt pour la grâce de Dieu, qu'il tournera plutôt en ridicule en justifiant ses actions. Donc si quelqu'un ici parmi nous a peur de blasphémer contre le Saint-Esprit ou a peur qu'il va le faire, mais c'est qu'il aime Dieu. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'a pas peur de le faire. Il le fait, je vais presque dire avec joie, non, peut-être qu'on ne peut pas dire ça, mais dans le sens que il n'y a pas cette notion. Hein, si quelqu'un a peur de blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est qu'il aime Dieu, il désire l'adorer. Et donc, si vous avez cette peur, eh bien, posez-la au pied de la croix où Jésus nous dit qu'il a tout payé. Il ne faut pas avoir peur. Et saisissons par la foi ce pardon avec toute la vie que cela implique. Et ce sera évident que ce blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas vécu. Même si on a eu des pensées noires, si on a eu des pensées des fois, même contre Dieu, si on va au pied de la croix, qu'on se repent, tous vos péchés seront pardonnés. Il n'y a pas de peur à avoir. N'ayez aucune crainte. Et si la peur vous arrête, mais demandez à Dieu de vous garder de cette peur. Dites, mais Seigneur, je te la dépose. Mais si vous endurcissiez votre cœur, que vous vous éloignez du seul moyen de salut qu'est Jésus-Christ, en vous moquant, en le traitant de démon, en toute connaissance de cause, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez jamais été averti. Mais je veux croire que dans sa bonté, Dieu va nous guider chacun ici vers lui, et que même nos pensées, qui parfois peuvent nous faire peur, sont captives en Christ, lavées par son sang. Car Jésus a dit, nous le croyons, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Gloire à Dieu. C'est l'évangile. Et c'est ce qui nous permet de vivre libérés. Et nous arrivons à notre dernier article qui nous rappelle que la famille de Jésus arrive là, et voulait me dire le raisonner. Et le titre du dernier article, c'est « Qui est la famille de Jésus ?» Alors je relis le texte. « Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. » La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Or cet article ici ne commence pas par une action de Jésus, mais par l'action de sa famille et leur réaction de ce qu'ils ont entendu. Ils ont entendu, ils n'ont pas été vérifiés, ils ont entendu des choses. Ils se tiennent dehors, ils ne rentrent même pas eux-mêmes pour constater ce qui se passe. Ils ne cherchent pas à parler avec Jésus, ils veulent simplement lui dire qu'il faut venir et qu'ils doivent suivre leurs idées à eux. Quelle est la réponse de Jésus ? La réponse de Jésus, En fait, je la trouve magnifique. Parce qu'il ne fait aucun reproche à sa famille. Il ne les repousse pas, mais par sa question veut les inviter et faire comprendre à tous ce que signifie être de la famille du Fils de Dieu. Sa famille est beaucoup plus large que sa parenté ne le pense, mais elle est aussi beaucoup plus précise qu'elle ne le pense. Sa famille est beaucoup plus large que sa parenté ne le pense, mais elle est aussi beaucoup plus précise qu'elle ne le pense. Alors, qu'est-ce qui distingue un membre de la famille de Jésus ? La réponse est simple. On a vu plusieurs choses simples aujourd'hui. Hein. Comment est-ce que les disciples répondent ? Ben, ils viennent à lui. Ici, quelle est la marque de la famille de Jésus ? Eh bien, elle est aussi simple. Quiconque fait la volonté de Dieu. Voilà. Quiconque fait la volonté de Dieu. Et c'est quelques mots en français, mais qui sont tellement forts. J'aimerais juste souligner deux choses. Le premier, c'est quiconque. Ah, ça vous rappelle peut-être Jean 3,16. C'est bien. Quiconque. Il n'y a pas d'exception. La famille est beaucoup plus large que sa famille ne le pense. Quiconque. Et deuxièmement, quiconque fait la volonté de Dieu. C'est la marque de la famille de Dieu. Si c'est la volonté de quelqu'un d'autre, c'est la famille de quelqu'un d'autre. Si nous vivons la volonté de quelqu'un d'autre, nous sommes de la famille de quelqu'un d'autre. Si nous vivons la volonté de Dieu, nous sommes de la famille de Dieu. Voilà. En fait, la famille, elle est précise. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, faire partie de la famille de Dieu, c'est pas naître dans une famille chrétienne. C'est pas naître dans un lieu où quelqu'un est chrétien. Sinon, les frères de Jésus, ben, il était Dieu, Jésus, hein. Donc, il a dit aux frères, ben, c'est bon, vous êtes de la famille, hein. Il n'a pas dit, vous n'êtes pas de la famille. Il a dit, quiconque fait la volonté de Dieu. Et c'était une invitation, en fait, qu'il a faite à ses frères et à sa mère. Même sa mère, qui l'a portée dans son sein, si elle ne faisait pas la volonté de Dieu, ne faisait pas partie de la famille de Dieu. Parce que la marque, l'indicateur, et quand, si vous me dites, ouais, mais on ne peut pas voir ce qui est dans le cœur, si quelqu'un est dans la famille de Dieu ou pas. C'est vrai, je ne peux pas voir dans le cœur, mais quiconque fait la volonté de Dieu est de la famille de Jésus-Christ. Et faire la volonté de Dieu est quelque chose qui se voit. Donc faire partie de la famille de Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Et nous faisons la volonté de Dieu lorsque nous avons reçu la nature de Dieu. Évidemment, nous progressons. Encore bien souvent, pour ma part, je me rends compte, des fois j'ai la famille d'un autre, je dis non, je vais faire ce que Dieu veut. Sans écarter. Jésus n'a pas écarté sa famille. Pas du tout. D'ailleurs, on retrouvera Marie et ses frères qui sont dans la chambre haute et qui prient après à Pentecôte quand le Saint-Esprit est donné. Ça arrive à la conclusion. Rappelons-nous pour terminer les quelques questions de chaque article ici. Donc, on a vu 5 articles. Les multitudes viennent à Jésus. La question qu'on peut garder, est-ce que je suis attiré par Jésus et quelle est ma motivation pour aller vers lui? Ensuite, Jésus choisit 12 disciples. Et là, une question qu'on peut prendre, c'est est-ce que j'ai reçu un appel à son service? Et quelle est ma réponse? Troisième article, la parenté de Jésus s'inquiète. La question que je vous avais posée, c'est que pensez-vous de Jésus? Est-il Dieu, un menteur ou un fou? En sachant que nous devrons vivre en conséquence de notre réponse. Quatrième article, les scribes accusent Jésus d'être démoniaque. Est-ce que je crois que Jésus purifie de tout péché parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu? C'est la question qu'on peut se poser. Et dernier article, qui est la famille de Jésus? Comment savoir si je fais partie de la famille de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez savoir si vous faites de la partie de... Ah, j'étais trop vite. Je vais revenir un petit peu en arrière. Comment savoir si je fais partie de la famille de Dieu? Est-ce que vous avez une réponse à donner maintenant? C'est écrit. Si je fais la volonté de Dieu. Vous avez une réponse? Elle est donnée dans le texte. Le Saint-Esprit a rappelé à Pierre tous ces récits historiques qu'il a transmis à Marc, qu'il les a mis à part écrit. Cette parole nous a été présentée sans faute pour que nous puissions croire en celui qui guérit, qui pardonne et qui nous aime. Tout ce qui est écrit ici est vrai et nous conduit vers Christ. C'est bien qu'il en soit pour chacun de nous de la reconnaissance de Jésus étant Dieu, celui qui nous sauve, celui que nous voulons suivre, vers qui nous voulons être proches pour suivre la volonté de Dieu et ainsi faire partie de sa famille. Nous allons prier. Seigneur, nous voyons 5 petits articles de ce que Pierre a vécu avec toi ici sur cette terre. Nous sommes émerveillés de voir que même des petits articles nous poussent à apprendre à mieux te connaître, à grandir dans ce cheminement que nous désirons pour te ressembler toujours plus, qui nous pousse aussi à comprendre qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Et j'aimerais te prier, Seigneur, que s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas encore ou qui a entendu parler de toi depuis longtemps déjà, tu vois, Seigneur, même des jeunes qui sont ici, qui sont là depuis tout petit, qui viennent peut-être parce que les parents veulent qu'ils viennent ici. Oh Seigneur, permets que ce salut en Jésus-Christ ne soit pas juste des paroles, mais soit une réalité dans la vie de chacun. Qu'il y ait ce désir et cette joie de faire la volonté de Dieu parce qu'elle est bonne. Oh Seigneur, nous te prions de nous aider et nous nous rendons compte, et je me rends bien compte que trop souvent encore, je ne suis pas dans cette volonté. Je désire, Seigneur, grandir. Nous désirons grandir. Nous désirons être toujours plus proches de toi et de ce que tu désires, parce que tu es Dieu. Permets, Seigneur, que cette journée soit remplie de la joie, de rappel de ce que tu as fait et de ce désir de faire partie de cette famille et de cette joie de voir que nous en faisons partie. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.